Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Bouroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce lundi 26 décembre 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran poursuit ses plans visant à promouvoir ses capacités de drone, affirme le chef d'état-major des forces armées iraniennes. Deux terroristes Daesh ont été tués dans le nord de l'Irak. En Afrique du Sud, 15 morts dans l'explosion d'un camion citerne. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bareri, saluant les efforts conjoints déployés par les forces armées, les universités et les entreprises fondées sur la connaissance pour améliorer la puissance des drones iraniens, a affirmé que la République islamique d'Iran figure actuellement parmi les 5 premières puissances mondiales dans l'industrie des véhicules aériens sans pilote. S'exprimant devant la presse le dimanche 25 décembre, le général de division Mohammad Bareri a déclaré: les drones iraniens peuvent effectuer diverses missions au plus haut niveau mondial avec une grande précision et une grande endurance de vol. L'Iran poursuivra ses plans visant à promouvoir ses capacités de drones et coopérera avec d'autres pays dans ce domaine pour répondre aux besoins du pays, a-t-il également ajouté. Il a une fois de plus rejeté les allégations selon lesquelles l'Iran aurait envoyé des drones en Russie pour être utilisés dans la guerre en Ukraine, affirmant que de telles accusations faisaient partie de la guerre psychologique de l'ennemi. Ces déclarations mensongères démontrent à juste titre la position puissante de l'Iran dans l'industrie des drones. L'Iran et la Russie ont rejeté à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles Téhéran aurait fourni à Moscou des drones à utiliser dans la guerre contre l'Ukraine. En ce qui concerne la récente position des autorités israéliennes, le général Bareri a déclaré: le régime sioniste a atteint sa position la plus faible de tous les temps et les récents commentaires menaçants des responsables israéliens sont dépourvus de valeur. Les forces armées de la République islamique d'Iran sont pleinement préparées et puissantes et nous répondrons de manière décisive à toute agression contre notre terre, a-t-il dit, précisant que l'Iran avait la capacité et la volonté de contrer les menaces et donnerait une réponse écrasante à toute partie qui chercherait à mener une action contre l'Iran et son intégrité territoriale. Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIEA, Mohammad Eslami, a déclaré que le pays chercherait à devenir une plaque tournante mondiale pour la fabrication de médicaments de terre. dans un prochain avenir. Nous deviendrons une plaque tournante mondiale pour la fabrication de médicaments à base de deutérium, qui sont de bonnes alternatives aux médicaments chimiques et ont moins d'effets secondaires que, a déclaré M. Estami. Les chercheurs pensent que le deutérium, qui est un isotope lourd de l'hydrogène, peut considérablement améliorer les propriétés métaboliques des médicaments et les rendre plus efficaces en formant une liaison chimique plus forte avec un atome de carbone d'une molécule utilisée dans les médicaments. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a lancé une deuxième phase de son unité de production de deutérium dans l'installation du réacteur à Ouloud d'Arak, une ville centrale de l'Iran, en avril 2021. Les responsables ont déclaré à l'époque que l'unité était une première dans la région de l'Asie occidentale et que ses produits isotopiques étaient parmi les meilleurs dans le monde entier. La déclaration de M. Estami sur les projets de l'Iran de devenir une plaque tournante mondiale des médicaments deutérés est intervenue alors qu'il assistait à une cérémonie d'inauguration d'une installation moderne de radiochirurgie au Couteau Gamma à Téhéran. Mohammad Estami, vice-président iranien, a déclaré que l'Organisation iranienne de l'énergie atomique continuerait à fournir des technologies et des équipements aux fournisseurs nationaux pour les aider dans leurs efforts de fabrication de médicaments et d'appareils médicaux sophistiqués. Deux membres du groupe terroriste Daesh ont été tués et un soldat irakien a été blessé dimanche 25 décembre lors d'un affrontement dans la province irakienne de Ninive, dans le nord de l'Irak, a déclaré une source de la police provinciale. Plus tard dans la journée, un violent affrontement a éclaté au cours d'une opération visant à traquer les terroristes Daesh dans la montagne de Rarashor, près de la ville de Mahmour, à environ 60 km au sud-est de la capitale provinciale de Ninive, Mossoul. Deux daeshistes ont été tués et un soldat irakien a été blessé, a confirmé le commandant Saad al-Bayati de la police de Ninive. L'opération de sécurité se poursuivra pour éliminer la présence de Daesh dans la zone montagneuse au sud de Mossoul, a-t-il encore ajouté. Ces derniers mois, les forces de sécurité irakiennes ont mené des opérations contre les terroristes afin de réprimer leurs activités intensifiées. La situation sécuritaire en Irak s'est améliorée depuis la défaite de Daesh en 2017. Cependant, les restes de l'organisation terroriste se sont depuis fondus dans les centres urbains, les déserts et les zones accidentées, menant fréquemment des attaques de guérilla contre les forces de sécurité et les civils. La coalition dirigée par l'Arabie saoudite a lancé 5 frappes de drones sur la ville portuaire de Hudaïda, au bord de la mer Rouge, a rapporté le site d'information yéménite Sabah. Ces attaques font partie des 97e violations de la trêve commises dimanche 25 décembre dans la ville par les forces de la coalition saoudienne, dont des survols intensifs de drones de reconnaissance dans le district de Aïs, dans la partie sud de la ville. Par ailleurs, le plus grand hôpital de la province de Taiz, dans le sud-ouest du Yémen, a été obligé de fermer dimanche en raison d'une grave pénurie de carburant affectant des milliers de patients dans ce pays arabe, ravagé par la guerre déclenchée par l'Arabie saoudite, a déclaré un responsable médical local. Tous les services de l'hôpital général Al-Thawra, dont un centre spécialisé dans le traitement des affections rénales, ont été fermés en raison d'une grave pénurie de carburant, a indiqué le responsable sous couvert d'anonymat. Les travailleurs britanniques font face à une forte baisse des salaires réels en cette nouvelle année 2023. Le salaire moyen d'un employé britannique l'année prochaine tombera à un niveau jamais vu en 2006, selon le dernier rapport sur l'économie britannique du cabinet de conseil multinational PwC, publié plus tôt cette semaine. Le réseau des services professionnels prévoit que les salaires réels plongeront jusqu'à 3% en 2022 et encore 2% au cours de la prochaine année. Des impôts plus élevés devraient également contribuer à rendre 2023 plus difficile pour beaucoup, le gouvernement britannique gelant à nouveau les seuils d'imposition sur le revenu à partir d'avril prochain, tout en réduisant les subventions à l'énergie. Une chute de 8% des prix de l'immobilier ajoutera à la morosité. Ceux qui chérissent la valeur élevée de leur maison seront bouleversés et ceux qui pourraient en bénéficier ne pourront pas en profiter en raison des taux d'intérêt plus élevés. Le nombre de transactions sur le marché du logement tombera en dessous d'un million pour la première fois en plus d'une décennie, selon les prévisions. L'un des résultats sera une augmentation de 20% des divorces, à près de 140 000 en Angleterre et au pays de Galles, selon PwC, ce qui équivaut à 16 divorces par heure. Les Britanniques affirment que la flambée des prix et l'aggravation de la crise du coût de la vie sont impossibles à affronter. La crise économique du Royaume-Uni a incité divers groupes de la société à prendre des mesures revendicatives, se mettant en grève pour obtenir des salaires plus élevés, afin de couvrir la flambée du taux d'inflation qui a dépassé le niveau sans précédent de 11%. Des infirmières aux enseignants, en passant par les employés des chemins de fer, les travailleurs britanniques de divers secteurs ont organisé des débrayages consécutifs au cours des derniers mois, alors que la crise du coût de la vie couvre à travers le pays. Le bilan de l'explosion causée par un camion-citerne à Boksburg, en Afrique du Sud, est passé à 15 morts, a indiqué dimanche le ministre de la Santé, Je Fala. Samedi matin, un camion transportant du gaz s'est coincé sous un pont bas à Boksburg, dans la province de Gauteng, provoquant un incendie suivi d'une explosion. Au total, 24 patients et 13 membres du personnel de l'hôpital Tambo Memorial, situé à 100 mètres du lieu de l'accident, ont été blessés par l'explosion. Parmi les membres du personnel blessé, un conducteur et deux infirmières sont malheureusement décédés, a déclaré M. Parla. La porte-parole de la police de Gauteng, Brenda Muridili, a révélé que le conducteur du camion citerne avait été arrêté dimanche dans une clinique privée où il recevait des soins pour les blessures subies dans l'accident. Le suspect de 32 ans a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, dont homicide, négligence ayant causé une explosion et entraîné plusieurs décès et dommages malveillants à la propriété d'autrui, a déclaré Mme Muridili, ajoutant que le conducteur comparaîtrait devant le tribunal de première instance de Boksburg le 28 décembre. Un rapport sur les dégâts causés par l'explosion et sur ce qui doit être fait sera publié la semaine prochaine, a ajouté M. Fahla. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Israël, taux de suicide record dans l'armée. Le cas de suicide augmente à un rythme alarmant parmi les soldats israéliens et atteint un nouveau record. Un récent rapport a révélé que les cas de suicide parmi les effectifs de l'armée israélienne continuent d'augmenter à un rythme alarmant, les derniers chiffres suscitant de sérieuses inquiétudes parmi les hauts responsables militaires et de renseignement du régime d'occupation, car ils ont établi un nouveau record. L'armée d'occupation enregistre le taux de suicide le plus élevé dans ses rangs en 5 ans. Les données montrent que 14 soldats israéliens se sont suicidés au cours de l'année 2022, ce qui est le taux le plus élevé de décès par suicide chez les soldats hommes en 5 ans. Dimanche, 25 décembre, le journal israélien Yediot Ahronot a rapporté que 14 soldats israéliens se sont suicidés pendant le service militaire, tandis que 11 soldats se sont suicidés au cours de l'année 2021. 9 militaires israéliens se sont donné la mort en 2020. Selon l'agence de presse Pal Today, le suicide est toujours la principale cause de mort dans les rangs de l'armée israélienne, en dehors des situations de combat. Plus tôt cette année, les statistiques officielles du Centre de recherche du Parlement israélien ont montré qu'Israël enregistre 500 suicides par an, dont 100 cas parmi la jeune génération de 15 à 24 ans. Un officier supérieur des services secrets israéliens s'est suicidé en mai dernier en sautant d'un immeuble, selon un rapport du quotidien israélien Israel Hayom. Les premières enquêtes ont conclu que le lieutenant anonyme avait décidé de mettre fin à ses jours en raison de problèmes personnels. Le journal a annoncé qu'il existait des liens solides entre le suicide du lieutenant et ce qui a poussé un autre officier du renseignement israélien à se donner la mort dans une prison militaire en juin dernier. L'officier israélien a été retrouvé dans un état grave dans sa cellule de la nouvelle prison de Neve Tzedek dans la nuit du 16 mai 2021 et plus tard déclaré mort. Après l'autopsie, aucune cause officielle de décès n'a été déterminée. L'officier a été décrit par ses collègues comme un prodige de l'informatique.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. La France et l'Allemagne ont présenté une proposition commune en réponse et en réaction à la loi du contrôle d'inflation américaine. Mais est-ce que vraiment les États-Unis, l'Allemagne et la France parviendront-ils à une proposition commune, à une décision commune concernant cette loi américaine sur la rédaction de l'inflation? Alors, qu'en sera-t-il de l'avenir déjà de cette loi? Quels seront les intérêts des États-Unis? Est-ce que les États-Unis prendront en compte les intérêts également des pays européens, à savoir la France et l'Allemagne? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre avec nos deux invités d'honneur. Mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage à ce sujet présenté par mes collègues. On revient tout de suite après.
La France et l'Allemagne ont présenté lundi une proposition commune en réponse à la loi américaine sur la réduction de l'inflation, Inflation Reduction Act ou IRA, plaidant pour la création d'un partenariat économique vert entre l'Union européenne et les États-Unis. Dans un communiqué conjoint, le ministre français de l'économie et des finances Bruno Le Maire et son homologue allemand Robert Habeck appellent à la création d'un partenariat prévoyant l'élaboration conjointe de normes, l'accès à des régimes de subventions et une politique industrielle verte ambitieuse. Les deux ministres plaident pour un accès à des régimes de subventions, une politique industrielle européenne verte ambitieuse et pour la création d'un partenariat entre l'Europe et les États-Unis prévoyant l'élaboration conjointe de normes. Il est dans notre intérêt mutuel de trouver rapidement un terrain d'entente à ce sujet et d'éviter toute perturbation des conditions de concurrence entre partenaires proches à un moment où une collaboration étroite est nécessaire pour faire face à la guerre russe contre l'Ukraine, lit-on. En visite aux États-Unis fin novembre, le président français Emmanuel Macron avait déploré l'agressivité de l'IRA et les subventions massives réservées aux constructeurs américains qui en découlent. Selon leurs cabinets respectifs, les ministres français et allemands Bruno Le Maire et Robert Habeck devraient se rendre aux États-Unis en janvier 2023 pour plaider ensemble la cause européenne auprès de l'administration américaine. Giancarlo Giorgetti, le ministre de l'économie de l'Italie, a récemment annoncé que certaines entreprises italiennes envisageaient de transférer leur production aux États-Unis suite à la mise en œuvre de la loi anti-inflation de Washington qui sera un désastre. L'Union européenne craint que le plan de 430 milliards de dollars de Washington visant à réduire les impôts sur la production d'énergie domestique n'attire les entreprises européennes aux États-Unis et ne nuise aux entreprises européennes, y compris les constructeurs automobiles. Ce plan de protection du climat et de sécurité énergétique est de loin considéré comme le plus gros investissement dans la lutte contre le réchauffement climatique de l'histoire des États-Unis. La loi prévoit entre autres des subventions pour les véhicules électriques, les batteries et les projets d'énergie renouvelable « Made in USA ». Avec Inflation Reduction Act que Biden a promulgué cet été, les Américains veulent payer des milliards de subventions pour les voitures électriques, mais seulement si elles sont assemblées aux États-Unis.
Voilà, de retour sur le plateau. Nous sommes en ligne avec Maître Eliatem, juriste international qui nous rejoint en direct de Paris par Skype. Également Xavier Dupré, économiste belge qui est avec nous depuis Bruxelles. Alors je vous dis bonjour Maître Atem, merci de nous avoir accordé votre temps pour ce débat. Dans un premier temps Maître, pourriez-vous nous donner plus d'explications? On a entendu dans ce reportage peu d'explications en ce qui concerne cette loi, mais de quoi s'agit vraiment cette loi de la réduction d'inflation américaine?
Bonjour, et c'est à moi de vous remercier de votre invitation. En effet, ce Inflation Reduction Act, c'est-à-dire c'est une loi qui est établie aux États-Unis, qui a pour objectif de réduire l'inflation aux États-Unis, et puis elle prévoit donc de donner des subventions pour plusieurs secteurs. Donc le premier secteur, c'est le fameux secteur énergétique et climatique, ce qui est très bien d'ailleurs pour l'ensemble même, je dirais, de la planète, pour réduire les gaz à effet de serre, pour réduire également le gaz carbonique ou le carbone, donc en fait, de certaines entreprises. Et c'est adressé aux ménages qui ont une certaine subvention pour changer, en fait, le mode de la consommation énergétique en utilisant ce qu'on appelle le système solaire. Mais ce qui pose des problèmes, surtout pour l'étranger, et je reviens là-dessus, c'est le deuxième volet, c'est en ce qui concerne les usines de fabrication, donc de véhicules électriques qui perçoivent en fait des subventions assez importantes donc de l'État pour réduire en effet l'inflation, c'est-à-dire le coût d'achat et puis surtout d'acquisition donc de ces véhicules. Il y a des exceptions quand même, il faut le dire, pour le Canada et le Mexique, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas pour l'Union européenne et les autres pays de la planète. Le troisième volet aussi de cette loi, qui est d'ailleurs très bien dans l'intérêt donc des Américains et surtout de la population américaine, c'est le secteur de la santé. Autrement dit, pour tous les laboratoires donc de médicaments, il prévoit également de donner, donc cette loi prévoit de donner des subventions à ces laboratoires pour maintenir un prix bas ou même baisser le prix de certains médicaments de laboratoire, mais à condition que ces laboratoires soient sur le territoire américain et ils sont de loi américaine. Ce qui réduit donc le coût donc de production donc de ces médicaments, et ça permet à une large partie de la population d'y avoir accès. Si vous voulez, ce sont les grandes lignes de cet Inflation Reduction Act. Mais en même temps, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège. Cette loi concerne les Américains. Elle est faite dans l'intérêt des Américains, mais elle porte préjudice aux autres sociétés, à des autres entreprises qui sont à l'extérieur des territoires américains, notamment l'Union européenne. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est qu'aujourd'hui nous vivons dans cette mondialisation des échanges commerciaux entre les pays. Autrement dit, aujourd'hui, là, une société, par exemple Renault, qui produit donc ses véhicules, même électriques, en France, si elle va exporter vers les États-Unis, eh ben, elle va se trouver avec un prix qui est beaucoup plus élevé que le produit des véhicules électriques fabriqués aux États-Unis. Il en sera de même aussi pour toutes les industries de laboratoires de médicaments, de production donc de médicaments. Ce qui fait que, en fait, cette inflation va peut-être être réduite aux États-Unis, mais au contraire, au sein de l'Union européenne et même ailleurs, parce que même les Britanniques, ce n'est pas simplement la France et l'Allemagne qui se sont opposés à cette loi, mais également les Anglais qui se trouvent également dans la même situation. Et ce qui va permettre à ricocher à des sociétés ou à des entreprises qui fabriquent des véhicules, qui fabriquent des médicaments, d'exporter à moindre prix vers l'Union européenne, ce qui va contrebalancer en fait la concurrence compte tenu des accords commerciaux qui sont conclus entre les États-Unis et l'Union européenne, et puis la réduction donc des taxes sur les produits importés des États-Unis. C'est ce qui explique d'ailleurs la réaction des pays de l'Union européenne, notamment la France et l'Allemagne, mais également la Grande-Bretagne et d'autres pays également de l'Union, comme par exemple l'Italie, qui regrette d'avoir une partie d'ailleurs de ces entreprises déménager, se délocaliser vers les États-Unis pour pouvoir profiter de ces subventions qui sont données pour l'État pour construire et fabriquer à moindre coût et bénéficier bien sûr de ces subventions d'État. La question qui se pose, pourquoi cette exception simplement pour le Canada et le Mexique, si véritablement les États-Unis sont un partenaire de l'Union européenne, comme ils le prétendent d'un point de vue politique, il faut que cette alliance se concrétise également dans les autres secteurs que la politique et que l'OTAN, et qu'elle se concrétise donc dans le domaine commercial et des échanges commerciaux entre les États-Unis et les pays de l'Union.
Merci pour vos explications, Maître Atem. Alors, je vous dis bonjour, Monsieur Dupré. Merci d'être avec nous pour ce débat. Alors, vous avez entendu les explications de Maître Atem. Vous, en tant qu'économiste, à votre avis, est-ce que les pays européens ont de quoi s'inquiéter concernant cette loi américaine?
Ah, mais bien entendu. Parce qu'il faut être très, très clair à ce sujet. Lorsque l'Italie dit qu'une partie de ses producteurs pourrait délocaliser à destination des États-Unis pour continuer à bénéficier de l'accès au marché américain, puisqu'en fait, les aides qui sont accordées spécialement dans le domaine des voitures électriques sont bien basées sur l'idée qu'il faut que ce soit un producteur établi aux États-Unis, qui sont établis aux États-Unis pourront entrer en ligne de compte pour l'octroi de ces subsides. Donc, de ce point de vue-là, oui, ces craintes sont tout à fait fondées. Elles sont d'autant plus fondées que dans le domaine de l'automobile aujourd'hui, eh bien, nous avons affaire non plus à des producteurs nationaux, des grands producteurs nationaux, mais à de vastes alliances transnationales. Et en l'espèce, l'alliance Stellantis, qui fusionne Fiat, Chrysler et d'un autre côté PSA, donc Peugeot et Citroën, en fait, tout simplement, est un groupe qui a déjà un pied aux États-Unis. Et donc, il sera peut-être beaucoup plus facile pour des productions, une partie de la production européenne, de s'établir aux États-Unis, via notamment le réseau commercial et de sous-traitants de Chrysler, pour pouvoir bénéficier de ces subventions. Alors, je pense que la mesure... Alors, si on veut vraiment maintenant comprendre pourquoi cette mesure est inquiétante pour l'Europe, c'est parce que je crois qu'il faut quand même bien se rendre compte que les États-Unis, aujourd'hui, sont engagés dans une course vers le protectionnisme qui constitue une rupture par rapport au modèle de, on pourrait dire, la mondialisation néolibérale qui a commencé fin des années 80 du siècle dernier, pour entrer de plein pied vers une ère de protectionnisme. On l'avait vu avec Donald Trump, et je pense que de ce point de vue, finalement, l'administration Biden ne fait qu'amplifier un mouvement de retour, de revalidation du protectionnisme aux États-Unis. Dans ces conditions, il y a effectivement des craintes à nourrir du côté des Européens. Alors, quant à notre capacité de résistance et de réaction, je pense qu'il faut quand même se rendre compte que dans le chef actuellement de l'Union européenne, et spécialement de la Commission européenne, on avait quand même beaucoup abandonné la politique industrielle depuis une vingtaine d'années. On avait laissé les grands paramètres déterminants de l'innovation industrielle entre les mains du marché. Donc il n'y avait plus de politique industrielle, on avait abandonné ce pan-là. On est en train de le remettre en avant aujourd'hui, un peu pressé par les événements, parce que nous avons, pour le dire familièrement, le dos au mur, mais nous n'avons pas vraiment de politique industrielle en Europe, contrairement aux États-Unis, qui n'ont jamais cessé d'avoir une politique d'encouragement à l'innovation définie par le gouvernement américain. Et d'autre part, il faut bien se rendre compte aussi que de par notre situation de dépendance stratégique et militaire, tout spécialement en cette période de crise ukrainienne, nous sommes finalement beaucoup plus dépendants des États-Unis que nous ne l'étions il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, et donc forcément, bien, nous aurons tendance à ne pas opposer une politique industrielle qui serait une politique européenne industrielle davantage protectionniste, et nous n'allons pas ouvrir de guerre commerciale avec les États-Unis. Donc il est très clair que les Américains continueront, à travers ce plan de réduction de l'inflation, à appuyer leurs industries et finalement pourront tout savent qu'ils n'auront pas véritablement une grande opposition européenne en face d'eux. J'en prends notamment pour preuve que s'il est clair qu'aujourd'hui il y a des déclarations communes qui vont subsister et qui vont émerger à partir de concertations conçues au niveau du couple franco-allemand, l'idée de créer un fonds pour innovation qui aurait été en fait un fonds de dette publique européenne, de dette publique émise directement au niveau de la Commission européenne, ce projet-là, là, n'a pas vu le jour. Cette proposition de la Commission européenne, elle reste dans les limbes. Et donc, quelque part, nous manquons d'outils politiques industriels, nous sommes dépendants pour notre défense, et les États-Unis sont engagés depuis Donald Trump, depuis l'élection de Donald Trump, dans un retour au protectionnisme. Il n'y a pas grand-chose à espérer pour nos industries dans ces conditions. Mmh.
Merci beaucoup pour vos explications, Monsieur Dupré. Restez en ligne. Alors, Maître Atem, à votre avis, est-ce que les États-Unis, les pays européens, donc notamment la France et l'Allemagne, arriveront-ils en fait à une proposition commune, à une décision commune qui serait dans l'intérêt des deux parties? Parce qu'apparemment, avec vos explications et les explications de Monsieur Dupré, cette loi n'a rien de bonne, en fait, n'a rien de positif pour les pays européens.
En effet, elle est faite, si vous voulez, dans l'intérêt exclusif des Américains. Mais encore une fois, les États-Unis ne sont pas un pays neutre ou un pays, un petit pays. C'est que c'est une puissance à la fois politique, militaire, mais également économique. Et avec ce que je disais tout à l'heure, la mondialisation, ce projet a un effet néfaste vis-à-vis de ce qu'on appelle les partenaires, soi-disant donc des États-Unis, sur leur économie, et puis sur un autre facteur qui est assez important, il ne faut pas négliger les conséquences monétaires et financières que cette loi va engendrer sur ses partenaires européens, donc des États-Unis, à savoir un taux d'inflation qui est en train de grimper de plus en plus avec cette inflation qui est due à la crise ukrainienne, et nous le voyons en particulier en Angleterre, mais dans la plupart des pays européens. En France, nous allons commencer à le sentir en début janvier, quand il n'y a plus, par exemple, de bouclier en ce qui concerne la consommation énergétique du gaz en particulier. Et donc, il y a une augmentation donc, des prix, ce qui fait que en Grande-Bretagne, les prix ont triplé, c'est qu'il y a effectivement une inflation donc, sur le terrain. Ce qui fait, c'est qu'il y aura il y a aujourd'hui une dévalorisation de plus en plus de l'euro par rapport au dollar. Et cette dévalorisation, elle va s'accentuer, en effet, avec ce projet ou cette loi américaine, ce qui va engendrer une crise, non pas simplement économique, mais économique et financière, dont nous avons commencé à en souffrir au sein de l'Union européenne. Maintenant, il faut voir si ces deux partenaires, c'est-à-dire les États-Unis d'une part et l'Union européenne d'autre part, en particulier le couple franco-allemand, vont-ils réussir, oui ou non, à convaincre les États-Unis de prendre en considération les intérêts de ses partenaires pour éviter cette vague inflationniste qui va toucher l'Union européenne, mais cette vague est également qui va provoquer une crise financière et monétaire assez importante de l'euro. Et là, c'est la plus grande question. Mais en même temps, il ne faut pas se leurrer, c'est que la politique américaine a pour objectif de sauvegarder ses propres intérêts, autrement dit, de voir le dollar beaucoup plus important donc, que l'euro. Une dévalorisation donc, de l'euro par rapport à dollar n'est autre qu'un objectif de la politique américaine. Et les Américains, c'est par expérience que je le dis, sont de très bons négociateurs, ils sont très forts et puis ils savent utiliser le temps pour aboutir à leur objectif. Ceci dit, ce n'est pas simplement que la compétitivité, je dirais, américaine qui menace l'économie et les échanges européens, mais également la Chine. Et comme l'a dit très bien M. Dupré, c'est malheureusement l'Union européenne, pour des raisons ou pour d'autres, a négligé la politique industrielle. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a cette compétitivité industrielle de la part des produits chinois et des produits, et maintenant, avec la Inflation Reduction Act, des produits américains. Donc, il va falloir non seulement miser sur une négociation avec les États-Unis, mais il faut déjà trouver déjà une solution avec d'autres également partenaires, notamment le marché chinois, le marché en fait des pays asiatiques. Mais compte tenu, encore une fois, de cette crise ukrainienne et les positions qui sont édictées à l'Union européenne, les pays, les États de l'Union européenne, et qui sont en train de les suivre à la lettre et qui sont imposées par Washington, me rend perplexe vis-à-vis de cette deuxième solution, c'est-à-dire la recherche d'un autre partenariat, d'un autre marché, c'est-à-dire le marché asiatique.
Merci pour vos explications. Monsieur Dupré, vous, à votre avis, à quoi devrait-on s'attendre concernant cette loi sur la réduction d'inflation américaine? Est-ce qu'il y aura un terrain d'entente positive entre les deux parties? Est-ce que les États-Unis continueront-ils leur unilatéralisme, comme dans d'autres dossiers, effectivement, où voilà, ils se mettront à la table des négociations, en quelque sorte, entre guillemets, avec les Européens pour parvenir à une proposition commune?
Alors, je pense qu'il y aura une proposition commune, mais elle se fera essentiellement sur la base de petites concessions de la part des États-Unis, mais on ne remettra pas, il n'y aura pas de remise en cause globale et fondamentale des dispositions de cet acte posé par le gouvernement américain. Donc là, la réduction de l'inflation, l'Inflation Reduction Act, sera maintenu dans ses grandes dispositions et il y aura éventuellement quelques concessions qui permettront à l'Europe, aux Européens, de finalement continuer à maintenir une certaine présence industrielle dans leurs échanges avec les États-Unis. Alors je serai quand même moins pessimiste que Maître Atem. Bon, l'essentiel aujourd'hui, on est en train de passer le pic d'inflation dans la zone euro, hein, pour une raison très simple, c'est que si vous voulez, l'inflation, elle se nourrit essentiellement, les grandes vagues inflationnistes se nourrissent de revendications salariales qui, si vous voulez, les entreprises face à un choc extérieur augmentent leurs prix et donc les salariés, dans un deuxième tour, demandent à ce que leur salaire soit augmenté et là, c'est sur cette base-là que se nourrit une spirale inflationniste. On s'aperçoit qu'en Europe, depuis finalement la fin de l'année dernière, la fin 2021, les salaires réels ont diminué. Donc, il n'y a pas de vague d'augmentation. La vague d'inflation, le pic de l'inflation est déjà derrière nous. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, en tout état de cause, c'est notre dépendance à l'égard des États-Unis. Nous avions une dépendance militaire. On sent bien qu'aujourd'hui, le dollar se réaffirme très fort, mais il a toujours devancé l'euro dans les échanges internationaux. Et nous risquons de passer maintenant, après cette dépendance qui était à la fois militaire et financière, nous risquons de passer cette fois-ci en régime de semi-dépendance industrielle. Et là, la chose est tout à fait inquiétante parce que, en ce qui concerne le développement des voitures électriques, il faut bien constater qu'aujourd'hui, la production européenne est très loin derrière les États-Unis et très loin également derrière la Chine. Donc il est grand temps que nous autres Européens remontions des politiques industrielles. Des politiques industrielles ambitieuses et qui seront financées par nos marchés à nous en Europe. Donc je pense que là, vraiment, il y a des choses qui sont à faire. Mais c'est vrai que pour l'heure, vu l'état d'abandon de nos politiques industrielles, pour des raisons que je n'hésiterai pas à qualifier idéologiques, bien finalement, nous ne pouvons pas opposer une fin de non-recevoir, une résistance très active aux projets américains, puisque finalement, nous sommes dénués d'outils qui permettraient d'améliorer la qualité et le niveau de valeur ajoutée de nos productions industrielles, spécialement dans le domaine automobile. Nous serons bien forcés d'aller à la table des négociations, d'obtenir quelques petits bouts de concessions, et sans doute que les gouvernements allemands et français crieront victoire, parce que finalement, c'est tout ce que l'on peut faire aujourd'hui. J'espère que dans l'avenir, des politiques industrielles ambitieuses reverront le jour en Europe. De ce point de vue, je pense quand même qu'il faut bien concevoir qu'il n'y a pas d'avenir pour les industries européennes en dehors d'une certaine forme de, entre guillemets, non-alignement industriel. C'est-à-dire que nous n'avons pas dans le bras de fer qui est de plus en plus évident aujourd'hui sur la scène internationale entre la Chine et les États-Unis, nous n'avons pas à choisir de camp. Nous devons pouvoir définir des partenariats et des accords selon notre meilleur intérêt avec tantôt les Américains, tantôt les Chinois. C'est la meilleure voie d'avenir pour l'Europe aujourd'hui. Nous avons déjà pris du retard, nous avons à reconstruire des outils politiques et industriels, et donc finalement, nous n'avons pas à nous conditionner de manière excessive au desiderata d'une des parties. Je signale également qu'une politique industrielle, pour qu'elle sorte cet effet, il faut parfois plus d'une génération. Nous avons toute une série de métiers aujourd'hui qui, faute d'investissement dans l'industrie, eh bien, tout simplement, ne sont plus remplis, il n'y a plus personne, il n'y a plus de tourneurs, il n'y a plus d'ajusteurs, il n'y a plus assez d'électriciens industriels en Europe. Donc, si nous voulons reconstruire une politique industrielle, nous allons devoir miser sur le temps long, et donc, nous allons devoir, pour moi, la meilleure position serait de trouver une position d'équilibre permanente entre les États-Unis et la Chine.
Merci infiniment. Alors, Xavier Dupré, économiste, était avec nous depuis Bruxelles. Maître Elia Tem était avec nous depuis Paris. Merci également à vous, à toutes et à tous, de nous avoir suivis. Jusqu'à la fin de cette émission, on vous dit au revoir et à très bientôt.
La musique de l'Iran pré-islamique. La musique puise ses racines dans les pensées les plus profondes de l'homme et nous révèle ses états d'âme. Né au milieu des champs de la nature, l'homme s'est toujours senti attiré par la musique dès les premières années de son existence. Au cours de son évolution, l'être humain s'est rendu compte très tôt de l'influence des sons sur ses diverses activités. C'est en imitant les sons de la nature qu'une branche des arts est née. Les hommes de la caverne fredonnaient des airs pour surmonter leurs peurs et rendre culte aux dieux. Ces mélodies se transformèrent graduellement en diverses sortes d'hymnes et de cantines. L'homme exprime des sentiments tels que la peur, la tristesse, la haine et la joie par le biais de la musique, la danse et la parole, car elles sont nées avec lui. La musique proprement dite est née à partir du moment où l'homme fut en mesure d'exprimer ses états d'âme à travers la mélodie et de reproduire les rythmes existants dans la nature. La musique fit l'objet de plusieurs mythes transmis de génération en génération au cours de l'histoire. Car les premiers hommes estimaient que la musique est un don des dieux. Les anciens japonais croyaient que la déesse du soleil s'était un jour mise en colère pour ensuite se dissiper. Pour refaire la paix, ils se mirent à chanter une belle chanson. Après quoi, le soleil sortit de sa cachette pour briller de plus belle à l'horizon. Suivant cette tradition, les Japonais chantent même aujourd'hui lors des éclipses. Les Grecs, quant à eux, rendaient hommage à Hermès, dieu du commerce, pour leur avoir fait cadeau de la musique. Un jour, alors qu'Hermès se promenait sur la côte de la Méditerranée, il eut une idée géniale. Il attacha les cordes volées par son frère Apollon à la carcasse d'une tortue pour fabriquer un lyre. Les Arabes estiment par contre que Caïn chanta la première élégie de l'histoire, à l'occasion du deuil de son frère Abel dont il fut le meurtrier. Karl Stumpf, professeur éminent de la philosophie à l'université de Berlin, estime pour sa part que le père de la musique est l'homme premier qui communiqua à l'aide de sons et de cris. À partir de ces mythes mentionnés, nous pouvons conclure que la musique a toujours été l'âme sœur de l'homme. Mais plusieurs questions se posent néanmoins sur les origines, car l'histoire de la musique se mêle bien souvent à diverses légendes. La musique, la danse et le chant puisent depuis toujours leurs racines dans la culture de tous les peuples de la terre, ont occupé bien souvent une place de choix dans les cérémonies d'ordre religieux. Mais il fallut attendre plusieurs siècles avant que la musique devienne une discipline indépendante. Les débuts de la musique occidentale remontent à la Grèce antique, alors que celle du monde oriental trouve ses racines en Perse. Mais il demeure impossible de donner une date situant précisément l'invention de la musique. Les événements historiques, les révolutions et les civilisations ont un rôle central dans la formation de la musique de chaque nation. Concernant l'histoire de la musique persane, nous ne disposons pas d'informations valides, étant donné qu'elle apparut à une époque où l'historiographie n'existait pas encore. En outre, l'histoire tumultueuse de l'Iran, et notamment les innombrables attaques étrangères et les crises intérieures, ont fait disparaître le peu de documents qui existaient à ce sujet. D'après certains orientalistes, la musique perse date de l'époque achéménide. Après l'attaque d'Alexandre, sous les Ères Séleucides et Arsacides, la civilisation grecque influença l'Iran et une grande évolution se fit sentir dans le domaine de la musique persane. La formation classique de la musique dite persane date de l'époque des Sassanides, et notamment de celle du règne de Khosrow Parviz, qui soutenait les musiciens. Parmi les grands musiciens de cette époque, on peut notamment citer Ramtin, Bamshat, Barbot, Nakissa, Azat et Sarkesh. Parmi ces musiciens, Barbot demeure le plus célèbre de par son génie de compositeur. Il aurait composé près de 360 mélodies. La musique de l'époque sassanide a ainsi constitué le noyau de la musique de la civilisation islamique. Les premiers Iraniens sont des Indo-Européens et ont immigré en Oxus, Asie centrale, où ils se sont progressivement établis. Veda constitue leur plus ancienne œuvre littéraire et le livre sacré des Indiens. Cet ouvrage comprend quatre parties, dont l'une s'intitule Riga. Rig signifiant hymne en sanskrit et Veda signifiant connaissance. Cette partie de Veda, contenant chants et hymnes religieux, constitue donc un patrimoine musical commun aux Indiens et aux Iraniens. Dans l'Avesta, le livre sacré des Zoroastriens, qui est également l'une des plus anciennes œuvres littéraires et religieuses des Iraniens, la partie la plus ancienne est celle des Gatha, qui contient les hymnes et les cantiques des Zoroastriens. Ceux-ci les chantaient en les accompagnant par de la musique. À l'époque antique, la musique était aussi un moyen de communication. Par exemple, les premiers instruments de musique étaient les tambours que l'on utilisait pour annoncer une nouvelle. Au fur et à mesure, la musique s'est peu à peu transformée en un rite et fut très présente dans les cérémonies religieuses, les fêtes et les funérailles. À l'époque des Achéménides, il existait trois sortes de musique, religieuse, militaire et lyrique. La musique religieuse accompagnait souvent des hymnes et les gatha. La musique militaire était jouée au moment de la guerre, était destinée à renforcer le courage et la bravoure des troupes. De même, on jouait du cor pour annoncer le départ des armées. La musique lyrique a depuis toujours existé dans la civilisation persane. Elle avait ses propres instruments, dont on jouait de façon très particulière. Ferdowsi, dans son grande œuvre du Shahnameh, fait également de nombreuses allusions aux instruments de musique lyrique, aux chants et aux mélodies. À cette époque, les instruments étaient essentiellement divisés en deux catégories, ceux destinés à la musique militaire et ceux à la musique lyrique. Parmi les instruments de l'époque, on peut notamment citer le cheipur, kor, ney, barbat, tombak, kous, kanei, sorna, table, dohol, jam, joljol, kharmor, damame, hom, gavdom, narus et sanj. Très chers amis auditeurs, c'est tout pour cette semaine. La prochaine fois, nous continuerons cette étude. D'ici là, au revoir et passez une très bonne semaine.
Thank you.